Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Au lendemain d'une nouvelle démonstration de force des indépendantistes en Catalogne, Mariano Rajoy est à Barcelone ce midi. Le Premier ministre conservateur espagnol vient présenter le candidat de son parti pour les élections régionales du mois prochain. Correspondance de Mathieu Chaperon au début de ce journal. À Beyrouth, le marathon de ce dimanche a permis aux Libanais d'afficher leur solidarité avec Saad Hariri. La démission de leur Premier ministre, qui serait retenu en Arabie Saoudite, est vécue comme une humiliation. Reportage de Nicolas Feldman dans un instant. Sur le Brexit, Michel Barnier envisage une absence d'accord avec les Britanniques. Le négociateur de l'Union européenne s'exprime dans le journal du dimanche. Les détails à suivre de Benoît Bouscarel. La joie d'Agnès Varda, première cinéaste française à recevoir un Oscar d'honneur hier soir à Hollywood. Nous entendrons sa réaction. Et puis à 12h40, votre rendez-vous avec la face cachée du globe et Nadine Epstein. En Espagne, Mariano Rajoy est donc arrivé en Catalogne ce midi. Le Premier ministre vient présenter le candidat de son parti conservateur, le PP, en vue des élections régionales du mois de décembre prochain. Au lendemain d'une nouvelle grande manifestation des indépendantistes, évidemment, il n'y aura pas de bain de foule et d'autant plus que Mariano Rajoy a placé la région sous tutelle il y a 15 jours. Les précisions à Madrid de Pierre Chaperon.
C'est le premier déplacement en Catalogne de Mariano Rajoy depuis la mise en place inédite de l'article 155 de mise sous tutelle de la région. Arrivé en fin de matinée à Barcelone, officiellement, le président du gouvernement espagnol a fait le déplacement pour lancer la campagne du candidat de son parti, le Partido Popular local. Mais le président du gouvernement n'arrive pas en territoire conquis. Son parti de droite n'avait obtenu que 8,5% des suffrages aux dernières élections régionales de 2015, soit la cinquième force politique de Catalogne. S'ajoute à ça le sondage diffusé ce matin par le quotidien El País, pas de nature à rassurer, puisqu'à la question, Le gouvernement de Mariano Rajoy a-t-il bien géré la situation en Catalogne? Si 6 Espagnols sur 10 répondent que oui, dans le détail, ils sont quasiment 70% des Catalans à être en désaccord. Moins de 24 heures après la manifestation des indépendantistes, c'est un Mariano Rajoy discret qui est en terre catalane. Discret, pour preuve, il ne devrait pas effectuer de bain de foule.
La correspondance à Madrid de Pierre Chaperon. Au Liban, aucune date n'a été fixée pour le retour de Saad Hariri. En dépit des appels de la classe politique, le Premier ministre du pays est toujours en Arabie Saoudite. Plus d'une semaine après sa démission surprise, il serait retenu contre son gré par Riyad. Le président libanais Michel Aoun réclame depuis des jours des éclaircissements sur son sort. Et ce matin, le départ du marathon à Beyrouth a été donné dans une atmosphère particulière. Les coureurs se sont en effet mobilisés pour leur Premier ministre, Nicolas Feldman.
Les bras chargés de drapeaux libanais et de t-shirts à l'effigie de Saad Hariri, Rada interpelle les passants.
Nous sommes juste ici pour attendre le retour de notre Premier ministre.
À quelques mètres de la ligne d'arrivée du marathon, la centaine de partisans du Premier ministre a choisi un symbole fort pour se rassembler. Le mausolée du père de Saad Hariri, Rafik, assassiné en 2005. Sur le t-shirt de Nadine s'affiche un large sourire du Premier ministre accompagné de ce message. Nous sommes tous avec toi.
Il a déclaré qu'il n'est plus le Premier ministre du Liban de dehors du pays. Et ça a été un très grand choc pour tout le monde. C'est une grande humiliation pour tous les citoyens libanais. Comme vous voyez ici, ça c'est mon amie là, elle est chiite, l'autre elle est chrétienne et moi je suis sunnite. Nous sommes tous réunis ici pour le supporter.
Un peu plus loin, y compris chez ceux comme Nada qui combattait encore la semaine dernière l'action de Saad Hariri, l'unité du Liban passe avant tout.
C'est injuste pour lui et pour nous. C'est notre premier ministre en fin de compte, qu'on l'aime ou pas. Il faut être solidaire en ce moment difficile. Je demande qu'il rentre à son pays, qu'il prenne sa décision ici. Et je crois qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont le supporter après ce qui s'est passé vraiment.
En attendant toujours aucune nouvelle de Saad Hariri, qui pourrait s'exprimer selon l'un de ses proches à la télévision libanaise dans les prochains jours.
Reportage à Beyrouth signé de notre correspondant Nicolas Feldman. Emmanuel Macron recevra par ailleurs mardi à l'Élysée le chef de la diplomatie libanaise, Gebran Bassil. Donald Trump est arrivé aux Philippines ce matin, dernière étape de sa tournée en Asie. Le président américain participe au sommet de l'ASEAN, organisation économique qui réunit 10 pays d'Asie du Sud-Est. Il doit également rencontrer à Manille le président controversé du pays, Rodrigo Duterte. En Grande-Bretagne, la fronde des conservateurs ne s'éteint pas contre Theresa May. 40 députés Tories se disent prêts à défier son autorité, rapporte le Sunday Times. Selon le journal, il ne manquerait plus que 8 voix pour provoquer la mise en minorité l'autorité de la première ministre qui vient aussi de perdre en deux semaines deux de ses ministres empêtrés dans les négociations sur le Brexit. Elle vit un véritable cauchemar politique. Bonjour Benoît Bouscarel.
Bonjour Anne.
Le sixième cycle de discussions sur le Brexit avec Bruxelles n'arrange rien. Les négociations n'ont rien donné de tangible cette semaine. Et dans le journal du dimanche ce matin, nouvelle pression de Michel Barnier, le négociateur européen sur le Brexit.
Oui, alors on peut voir dans ces mots soit la preuve de la détermination de l'Union européenne, soit l'aveu d'une certaine impuissance face à des Britanniques qui pour l'instant ne lâchent pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, l'interview de Michel Barnier ce matin met en lumière l'importance du sommet prévu en décembre prochain. Ça passe ou ça casse. C'est tout le sens de cet ultimatum adressé au Royaume-Uni, sommet d'avancer dans les deux semaines qui viennent sur le volet financier du Brexit. Car si certains points sont réglés, par exemple les contributions 2019 et 2020 du Royaume-Uni au budget de l'Union, d'autres ne le sont pas. C'est ce qu'explique Michel Barnier, comme la participation britannique au Fonds européen de développement, l'aide à la Turquie et à l'Ukraine. Et puis, question toujours en suspens, qui va payer pour le déménagement des agences européennes, des banques et du médicament ?
Le temps presse, Benoît, car il y a bien d'autres sujets à régler.
Oui, des questions qui devront faire l'objet d'un traité à signer au plus vite, mais dont la finalisation prendra au moins 2 ans, d'après Michel Barnier. En plus de l'accord commercial si cher aux Britanniques, il faudra trancher sur le sort des Européens vivant au Royaume-Uni, régler les questions relatives à la sécurité, ainsi que l'épineux dossier des frontières, notamment en Irlande. Autant de conséquences du Brexit que certains ont peut-être sous-estimé et qu'ils ne veulent pas assumer, mais c'est aux Britanniques de décider s'ils veulent devenir un État tiers ayant avec l'Union européenne des relations semblables à celles que nous entretenons avec la Chine, explique Michel Barnier. Bref, les négociations continuent certes, mais on s'éloigne du « keep calm and carry on ».
Merci Benoît Bouscarel pour votre analyse. C'est l'une des dernières représentantes de la nouvelle vague. La réalisatrice française Agnès Varda a reçu la nuit dernière un Oscar d'honneur pour l'ensemble de son œuvre à Los Angeles. Sans toi ni loi, Cléo de 5 à 7 et dernièrement Visage Village. Voici quelques-uns de ses nombreux films. Une 50aine de productions au total pour celle qui a inspiré une génération de cinéastes. Agnès Varda est la première réalisatrice et la première française à recevoir cette distinction. Et elle était évidemment très émue hier soir devant l'Académie américaine.
Ça représente beaucoup parce que le cinéma que je représente est, on pourrait dire, un cinéma un peu marginal par rapport aux données hollywoodiennes du succès, de la compétition et tout ça. Ils m'ont choisi parce qu'ils veulent mettre en valeur le cinéma indépendant, hors des soucis spécialement commerciaux. C'est-à-dire que mon travail est connu ici depuis 1962, j'étais venue présenter Cléo 5 à 7. Tous mes films sont sortis ici. Et la communauté des femmes et des actrices me considère comme une inspiratrice d'indépendance de femmes qui prennent la caméra. Alors il y avait ce soir 2 femmes, on peut dire exceptionnelles, Jessica Chastain et Angelina Jolie, qui toutes les deux sont des très jolies actrices, mais qui ont pris leur destin en main, qui ont commencé à réaliser des films, à militer pour les femmes, à faire que cette espèce de façon de mettre les femmes un petit peu en dessous, un petit peu à côté, s'arrêtent. Donc, c'est intéressant parce que je représente une indépendance extraordinaire. Mmh. Ça les intéresse parce qu'ils y croient beaucoup. Donc, je suis très bien vue, très bien comprise. Et j'ai eu un moment d'émotion en me disant que tu es la mec du cinéma dominant, si j'ose dire. Donc, c'était pour moi un moment de plénitude, de bonne humeur, de joie, je peux dire.
La réalisatrice Agnès Varda était avec Olivia Ferrandi. Il est 12h39 sur France Culture. La face cachée du globe, c'est avec vous Nadine Epstein. Bonjour.
Bonjour. Le scandale déclenché par l'affaire du producteur américain Weinstein se répercute dans le monde entier. Le harcèlement sexuel est dénoncé par les femmes sur les réseaux sociaux. Hashtag MeToo, moi aussi, recueille aux quatre coins de la planète les témoignages de femmes qui subissent des violences au quotidien. À l'échelle mondiale, 1 femme sur 3 a été exposée à la violence physique ou sexuelle. En Bolivie, second pays au monde avec la plus haute représentation féminine au Parlement, derrière le Rwanda, 53% de femmes à l'Assemblée, soit davantage de femmes que d'hommes au sein du pouvoir législatif, le harcèlement, bien que sanctionné par une loi, reste très présent. Le reportage d'Alice Campagnol.
Ce spot de prévention regroupe des témoignages de femmes politiques ayant été harcelées dans le cadre de leurs fonctions. Menaces ou violences, on dénombre environ 500 plaintes depuis 2012. 2012, l'année lors de laquelle est votée la loi contre le harcèlement et la violence politique envers les femmes en Bolivie. La première du genre dans le monde. À une conseillère municipale, on a jeté du sable dans les yeux. À une autre, on a coupé les tresses et beaucoup ont été forcés à démissionner. Gabriela Montaño est la présidente de l'Assemblée. Le harcèlement, elle l'a vécu, même si elle reconnaît être plus protégée.
Nous, les femmes politiques, on nous juge pour savoir si nous avons une vie bien ordonnée ou pas. On nous juge comme jamais on ne jugerait un homme. Et ordonnée, comprenez, selon les valeurs conservatrices de ces gens qui, justement, aimeraient que nous ne soyons pas en politique, parce qu'on leur complique beaucoup la vie. Je connais des députés qui ont vécu à certains moments des situations très violentes, mais je le répète, ça nous arrive beaucoup moins souvent qu'au niveau municipal ou départemental. Et je ne crois pas que ce soit parce qu'ici, le patriarcat a disparu, mais seulement parce que nous, les parlementaires, nous pouvons porter plainte beaucoup plus facilement.
Mais aucune plainte déposée depuis 2012 ne s'est terminée par une condamnation, notamment à cause du problème de la preuve. Souvent, les victimes n'osent pas porter plainte par peur des représailles. Obtenir des témoignages est tout aussi difficile. Mais Ximena Costa, une députée de l'opposition, qui elle aussi a subi des persécutions de la part de ses collègues masculins, ne compte pas se taire.
À l'intérieur de mon propre parti, j'ai été harcelée par deux sénateurs, Arturo Murillo et Oscar Ortiz, qui aimeraient que nous, les femmes, nous nous contentions de nous asseoir, de sourire et surtout que l'on obéisse à ce qu'ils demandent. Mais on ne se laisse pas faire. Il faut toujours réagir. Il faut provoquer des scandales et porter plainte. Je crois que, paradoxalement, l'augmentation du harcèlement du fait de l'entrée des femmes en politique a un effet positif. Car même la présidente de la Chambre, qui est d'un autre parti, et Dieu sait que l'on se dispute beaucoup en matière de politique et d'idéologie, eh bien, en matière de genre, elle me soutient toujours.
Aujourd'hui, qu'elles soient de l'opposition ou du parti au pouvoir, les femmes politiques boliviennes continuent de se battre pour faire connaître et respecter cette loi contre la violence en politique et pour qu'enfin elle soit véritablement appliquée.
Combien de Weinstein se cachent dans le monde ? La campagne anti-harcèlement et le hashtag MeToo pour encourager les langues à se délier sont inégalement utilisés selon le continent. Bien qu'elles ne soient pas épargnées, les femmes africaines, à l'exception de l'Afrique du Sud, restent encore à l'écart de la dénonciation de ce fléau planétaire. En revanche, au Liban et en Égypte, par exemple, pays où le harcèlement sexuel est endémique ou souvent considéré comme faisant partie de la culture de la société, où le machisme est encore bien enraciné, les femmes prennent de plus en plus la parole pour dénoncer la banalisation du harcèlement. En Inde, harcèlement sexuel et viol font l'objet de réformes depuis qu'en décembre 2012, une étudiante a été victime d'un viol collectif puis tuée. Mais l'adoption de lois se heurte aux pratiques. Les victimes de violences sexuelles sont aussi fréquemment humiliées dans les commissariats et les hôpitaux. Valérie Crova.
Humiliées et rabaissées, surtout quand elles appartiennent à une caste inférieure. Le rapport établi par Human Rights Watch s'appuie sur 21 cas de femmes qui décrivent à chaque fois le peu d'empressement de la police à enregistrer leurs plaintes quand les policiers n'ont pas tenté de faire pression sur leur famille pour trouver un règlement à l'amiable avec leur agresseur si celui-ci appartient à une communauté puissante. L'exemple de Kajal, 23 ans, est terrifiant. Victime d'un viol collectif, elle a été giflée et frappée par la police, qui a également menacé d'arrêter son père s'il ne reconnaissait pas que sa fille avait fait une fausse déclaration. La protection des victimes de viol est insuffisante en Inde et les professionnels de santé censés les épauler leur imposent des examens dégradants, comme des tests de virginité effectués à deux doigts pour vérifier si la victime était ou non habituée au sexe selon l'expression utilisée. Si elles arrivent devant un tribunal, les victimes d'agressions sexuelles doivent affronter des avocats de la défense et des juges qui là aussi les rabaissent, aggravant encore un peu plus leur cauchemar. Les lois et les politiques sont aujourd'hui plus sévères, écrit l'auteur du rapport de Human Rights Watch, qui ajoute « Il reste beaucoup à faire pour que la police, les médecins et les tribunaux traitent les victimes avec dignité. »
Et on termine en musique avec cette chanson de Linda Lemay, On m'a fait la haine.
Ça blesse, mon corps fallait que ça laisse des cicatrices au bord du cœur, de l'âme. Et toi,
Merci Nadine Epstein. La face cachée du globe est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo de votre après-midi de ce dimanche 12 novembre, temps maussade sur la majeure partie du pays. 5 départements du sud-est de la France sont placés en vigilance orange au vent violent. L'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Haute-Corse et la Corse du Sud, des rafales de 120 à 140 km/h attendues à partir de 16h et jusqu'à demain matin. Les températures, c'est frais cet après-midi, 4 à Strasbourg, 5 à Paris, 7 à Lille, 12 à Bordeaux et jusqu'à 15 degrés à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Martin Descloseaux. À la technique, c'était Alexandre Dang.